Voilà, chers amis et chers frères et sœurs dans la foi, que Jésus vous bénisse selon la foi que vous gardez précieusement en sa personne. Balaam me vint à l'esprit ce matin en déjeunant seul avec Noémie. J'avais lu et relu beaucoup de textes dans la Bible, j'avais partagé beaucoup de textes avec Christian Mengelings, et il me semblait que j'avais tout ce qu'il fallait pour vous prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Mais un sentiment de manque m'habitait profondément, et j'ai écouté Noémie. En riant, elle me dit, un professeur et pasteur à l'Institut de la Grange nous dit un jour, si Dieu a fait parler à un âne, il peut aussi, s'il le veut, me faire parler devant vous aujourd'hui. Il s'agit d'une parole dans Nombre, chapitre 22, où l'ânesse parle à Balaam. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Alors, l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ?» Ai-je l'habitude de te faire ainsi ? Il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Ainsi, une ânesse a parlé et ce pasteur, professeur à l'Institut, disait « Eh bien, je pourrais peut-être au moins parler comme l'âne de Balaam. » C'est formidable, ça m'a fait rire et ça m'a ouvert des portes ce matin. Je suis allé prier, puis ensuite j'ai pris ma Bible, tout à fait dans des pages autres que celles que j'avais prévues. Et Noémie me supplia ensuite de ne rien vous dire de triste, d'apocalyptique, de sévère, parce que la situation est déjà tellement difficile pour chacun de nous et de vous. Mais elle m'a demandé de vous prêcher la joie et la consolation. Elle poursuivit en me parlant de Jonas. Ce râleur parfait, cet homme aigri et amer qui détestait les Ninivites, et on peut le comprendre, il s'agit de l'Irak et de la Syrie d'aujourd'hui, qui avait en 722 envahi 10 tribus du Nord et déporté quasiment tout le monde. Et voici que Dieu envoie, 2 ans plus tard, Jonas prêcher la repentance à cette ville qu'il maudit. Ce râleur parla tellement fort et sévèrement, sans amour, mais malgré tout, il parla de la grâce merveilleuse de Dieu, de la parole divine qui peut bénir le pécheur qui se repent. Et un repentir authentique s'opéra tout de suite dans Ninive. Dans Jonas, si nous prenons Jonas, chers amis, au chapitre 3, vous allez vous rendre compte du miracle de la prédication. La prédication n'est pas liée d'abord à la qualité de la personne, bien que cela importe d'être fidèle à Dieu, mais la prédication importe d'être le message que Dieu a voulu pour les hommes au moment voulu. Et donc, pour Jonas, si vous pouvez le trouver assez rapidement, moi comme je suis avec ma main gauche, ça prend un peu de temps, c'est pas toujours facile, j'ai l'épaule droite et je ne la bouge pas. Jonas chapitre 3. Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Donc il faut compter 70 kilomètres au moins de traversée à pied. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et il disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Il ne fait pas de cadeau. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc on voit bien que non seulement les hommes sont devenus méchants, mais le règne animal est devenu méchant et mauvais, parce qu'il a été contaminé par le péché de l'homme. Qui sait, dit le roi, verset 9, qui sait si Dieu ne reviendra pas, donc ne renoncera pas, ne se repentira pas, renoncera pas à sa colère ardente en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. J'ai choisi ce texte parce que hier j'avais lu des rapports de Globo, une revue de Oxfam, et puis ensuite de Médecins Sans Frontières, et ce qui m'a frappé, nous sommes parfois, même quand nous avons des journaux intéressants, nous ne les lisons pas, mais hier je les ai lus. Et quant au sud Yémen, il y a 800 000 personnes contaminées par des maladies qui sont condamnées à mourir, qu'il y a 3 millions de réfugiés, et qu'il y a ça au Kenya, en Ouganda et un peu partout. Dans le monde, il y a des fléaux bien plus grands qu'en Europe et qu'en Chine. Et ces fléaux sont dus à la vente, à la production des armes que nous envoyons là-bas, aux querelles que nous animons pour avoir leur pétrole, leur uranium, etc., les autres minéraux, pour alimenter la soif, la convoitise des multinationales qui nous donnent du travail ici et dans lequel nous envoyons nos fils et nos filles travailler, pour la plupart. Vous voyez qu'à ce point-là, j'étais frappé parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes au sud Yémen, en Ouganda, Kenya et autre part, qui sont touchées par des maladies infâmes et qui n'ont pas les médicaments, qui n'ont pas les masques, qui n'ont pas le confinement, qui n'ont pas le luxe que nous avons de nous épargner la maladie. Nous avons quelques centaines de morts en Italie chaque jour, en France, mais nous n'avons pas ce fléau tel que certains pays le connaissent, dont nous sommes responsables pour la plupart des cas. Donc, nous pouvons nous considérer comme Ninive. Et nous pouvons considérer que le rôle de Dieu doit s'adresser aux dirigeants et à tous les Européens, à tous les Américains, à tous les Russes, à tous les Chinois, à tous ceux qui ont une certaine technologie, une société sophistiquée. Qu'en sera-t-il si l'Évangile n'est pas prêché? Avons-nous assez peur de Dieu que pour aller prêcher même si nous ne le voulons pas? Allons-nous oser ouvrir notre bouche? Cela est notre responsabilité. Pourtant, Jonas n'a pas dit grand-chose. Il a suffi de quelques mots, de quelques phrases pour que les cœurs soient touchés. Pourquoi? Parce que Dieu avait préparé ses cœurs. Ils furent vite ébranlés. Et pourquoi pas aujourd'hui? Beaucoup de gens sont ébranlés. Dans la rue, cette semaine, j'ai distribué l'une ou l'autre Bible à des personnes parce qu'elles sont complètement perturbées et touchées. Elles sont dans une détresse. Et le moment est peut-être venu de toucher Ninive ici. Notez bien, frères, que je suis joyeux parce que le mal peut être soigné. C'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que le cœur de Jésus est plus grand que celui de Jonas. Jésus est miséricordieux et est venu pour nous sauver, pas pour nous condamner. Dieu voulut achever son œuvre de miséricorde à Ninive. Cependant, après avoir épargné les Ninivites, il voulut achever son œuvre de miséricorde en ôtant l'irritation, la colère, l'amertume, la rancune du cœur du seul croyant, Jonas. Si vous regardez dans le chapitre 4 de Jonas, et verset 2, « Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent, qui renonce au mal. » Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville, s'assit à l'orient de la ville, là il se fit une cabane, s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Donc il souhaitait le mal. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Alors, Dieu veut ôter l'irritation du croyant, la colère et la rancune. Ainsi donc, nous ne pouvons pas être dans l'irritation et la colère sur les riches, sur les présidents de République, sur les maîtres de l'Europe, les maîtres du monde. Nous ne devons pas être dans l'irritation. Nous devons simplement parler de la miséricorde de Dieu et du repentir qu'il doit opérer. Donc, lorsque Nous sommes tentés d'être en colère contre nos dirigeants qui ont pris des mesures trop tardivement pour le coronavirus. Nous ne répondons pas à l'appel de Dieu. Nous tombons dans un désastre spirituel qu'on appelle l'amertume. Pour nous éclairer, Jésus a parlé. C'est un problème permanent aux croyants. Les croyants remplis de convictions et de certitudes sont souvent psychorigides et charnels. Jésus expose en Matthieu, chapitre 5 à chapitre 7, son point de vue. Nous allons dans Matthieu et nous allons voir que Jésus ne veut pas que son peuple soit dans les pensées humaines. Les pensées de Jésus doivent être les nôtres. Chapitre 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert... Je mets le portable un peu ici, il est tombé. Je le mets là, c'est bon, je le cale comme ça. Alors, ils tombent tous. Bon, juste. Mets le pull si tu veux. Que fait Jésus dans chapitre 5? Il ouvre la bouche et les enseigna. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres qui se réfugient dans le Saint-Esprit et qui ne restent pas dans les pensées humaines, qui ne restent pas dans les pensées acquises par l'éducation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, nous sommes attristés et affligés de ce monde qui vit sans Christ et de ce monde qui tombe dans la maladie. Mais quand nous regardons d'autres nations qui sont dans la maladie, dans l'exode, dans l'affliction, nous connaissons quelques petites afflictions. Et Dieu déjà veut nous consoler. Dieu est bon, je pense que Dieu est bon. Au verset 5, « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. » Les débonnaires, c'est les bienveillants. C'est ceux qui veulent du bien aux autres. Il faut, je pense, quelles que soient les décisions de nos ministres, les décisions de nos préfets, de notre président en France ou de notre roi en Belgique, ou des autres pays européens, il faut garder de la bienveillance envers eux et il faut les bénir. Il faut demander à Dieu de parler à leur cœur. Nous ne pouvons pas râler et saisir toutes leurs fautes, tous leurs manquements, pour des occasions de critique et de démolition. Jonas aurait bien voulu le faire, mais Jésus ne l'a pas fait. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, donc la sainteté, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordiés, car ils obtiendront miséricorde. Faire miséricorde, pardonner. Eh bien, cela est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Si nous procurons la paix à ceux qui nous ont blessés, qui ont des manquements, nous pouvons aussi être assurés de recevoir la miséricorde de Dieu à notre égard. N'est-ce pas la prière du Notre Père ? Chapitre 6, verset 12, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du tentateur. » Donc, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Je pense qu'aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons un devoir de pardon. Et nous avons une espérance que le pardon de Jésus à la croix puisse toucher tous les hommes. Et nous n'avons pas à condamner un homme, même qui a fait des graves erreurs, qui a des postes de responsabilité. Nous devons invoquer le pardon de Christ à la croix sur tous les hommes, sur tous les dirigeants. Saisissons Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Jean, chapitre 4, versets 23 à 24. Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit en vérité. C'est radical. Jonas n'avait pas cet esprit de vérité. Il craignait Dieu, il connaissait Dieu, qui est miséricordieux, et il ne voulait pas de la miséricorde pour ses ennemis. Nous, nous voulons la miséricorde pour tous les hommes, pour tous les dirigeants, pour tous les médecins, pour tous les chefs de multinationales, pour tous les trafiquants d'armes. Nous voulons la miséricorde pour tous les hommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas maudire, nous devons bénir. Voilà notre devoir aujourd'hui. C'est une parole de consolation et d'espérance. Nous avons un devoir d'espérance. Nous sommes vis-à-vis du monde en contradiction. Nous avons l'espérance que le pécheur sera sauvé. C'est cela la vérité biblique. Au verset 34, Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Mais quelle est la volonté du Père qui a envoyé Jésus? Quel est l'accomplissement de l'œuvre de Jésus? C'est le salut du monde. Ce n'est pas sa condamnation. Mes chers amis, il faut réellement recentrer notre vie chrétienne sur les vérités fondamentales. Au chapitre 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si nous voulons, durant cette période où nous ne pouvons pas nous rencontrer, où nous n'avons pas de réunion, si nous voulons être dans la vie, plongeons notre regard, plongeons notre âme dans les paroles de Jésus, parce qu'elles sont esprit et vie. Nous avons toute la nourriture devant nous lorsque nous ouvrons la Bible. Demandons au Seigneur que l'Esprit Saint nous vivifie, nous ouvre les yeux du cœur pour comprendre sa parole. Au chapitre 3 de Jean, versets 3 à 9. Jésus répondit à Nicodème, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce que je souhaite, vraiment, frères et sœurs, c'est que nous mettions en application cette nouvelle naissance, que nous ne l'ayons pas mis de côté. Depuis le jour où nous avons été touchés par la parole de Dieu, depuis le jour où nous avons cru, il faut garder précieusement ce cadeau et le mettre en valeur. Il ne faut pas que ce soit un petit talent dans notre main qu'on enfouit en terre et qu'on rendra à Dieu en faisant le reproche qu'il est dur et qu'il ne nous a pas compris. Non ? Ce petit talent doit devenir 2 talents, 5 talents, 10 talents, 20 talents dans notre cœur. Notre foi reçue de Dieu, regardez bien, elle vient de la nouvelle naissance. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Je vais dire autrement. Dans la situation actuelle, je suis dans la maison, je ne sais pas si j'aurai encore de l'argent le mois prochain. Je ne sais pas s'il y aura encore à manger. Je ne sais pas s'il y aura des médicaments. Comment puis-je vivre comme un enfant de Dieu en pleine confiance? Comment puis-je ne pas être dévoré par l'inquiétude et commencer à m'énerver, à tourner en rond, à m'agacer, moi-même à m'irriter, comme Jonas? Eh bien, le Seigneur le dit ici à Nicodème, au verset 5, « Je te le dis, si un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nous devons nous laisser saisir par ce Dieu que nous ne pouvons pas saisir. Nous devons nous laisser saisir par Dieu le Saint-Esprit et nous laisser conduire dans son chemin. C'est absolument nécessaire dans cette époque. C'est une véritable consolation pour celui qui accepte ce chemin. Sans cela, il n'y aura pas de consolation. Il n'y aura que de l'amertume et de l'irritation. Nous sommes devant un carrefour et nous devons choisir. Qui sait ? Si le coronavirus ne recommencera pas en automne, comme certains médecins spécialistes le disent. Qui sait s'il n'y aura pas d'autres maladies? Il y a des pays entiers qui ont connu l'Ebola, le sida, etc. Et il y a une foi énorme dans leur église. Pourquoi ici serions-nous des chrétiens à la Jonas? Nous n'avons pas le droit. Lisons Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Quel est le but ultime de Dieu lorsqu'il envoie Jésus? Au verset 34, quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce sont nos pays. C'est notre civilisation. Comme à cette époque-là. Et il se mit à les enseigner, à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus est ému de compassion et il les enseigne. Donc, nous devons enseigner les autres. Nous devons leur donner des paroles de Jésus, pas les nôtres. Des paroles de consolation et de vérité et de bonté. Des paroles d'amour venaient de Jésus. Marc 6, 34 est essentiel. Regardons Marc, chapitre 3, verset 14. Jésus monta sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Donc Jésus a appelé ses apôtres, comme il nous appelle, évidemment, à la suite des apôtres, et ils vinrent à lui. Nous avons la pleine liberté d'aller vers Jésus, pour l'écouter évidemment, pas pour que lui nous écoute. Il est Dieu, nous sommes humains. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit, donc il les mit debout. Et pour les avoir avec lui, le verbe en grec est koinonia, c'est la communion. Jésus désire la communion avec nous. Il a tellement de compassion qu'il sait que si nous ne sommes pas en communion avec lui, nous serons dans l'irritation, nous serons dans tous des travers moraux, psychologiques, mauvais. Et quels sont ces travers psychologiques et mauvais? Retournons à Matthieu chapitre 5, l'enseignement de Jésus sur le cœur transformé par Dieu. Au chapitre 5, versets 1 à 16, il s'agit de mettre en pratique l'œuvre de la lumière dans nos vies. Verset 14, de la lumière du monde. L'œuvre de la lumière, c'est l'œuvre de Christ. Verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. L'œuvre de Christ, pour les autres, dans notre vie, c'est notre responsabilité. Je résume fortement les versets. Évidemment, le temps est court. Je prends maintenant le verset 22 et il est mis ceci. Parce que c'est un travers auquel on peut céder énormément devant ce qui est arrivé dans nos sociétés. On peut toujours trouver des fautifs, des petits canards noirs ou des gros canards noirs. Ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas des Jonas, nous sommes enfants de Dieu, nés du Saint-Esprit. Verset 22. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Il ne faut pas juger. Dans Jacques chapitre 1 verset 20, il est mis que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu, la sainteté de Dieu. La colère appartient seulement à Dieu. Parce que seul Dieu est juste dans sa colère. Il l'a démontré d'ailleurs pour Jonas et pour Ninive. C'est une justice pleine de miséricorde. Regardons le verset 25. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Nous avons tous des rapports difficiles avec l'une ou l'autre personne. Nous avons tous des conflits. Il ne faut pas le nier, que ce soit dans la famille ou avec le voisinage. Et quand nous voyons ces paroles, et quand nous voyons l'urgence du retour de Jésus, il faut faire taire les querelles. Il faut désamorcer les querelles. C'est extrêmement important. Au verset 25, c'est mis « promptement ». Ça veut dire « dans les plus brefs délais ». Les querelles ne sont pas bonnes pour se présenter devant Dieu. Et les querelles ne sont pas bonnes pour le salut des âmes des autres, ni pour notre vie spirituelle, notre perfectionnement spirituel. Au verset 28, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'impudicité du cœur et des yeux, à travers la télévision, à travers Internet, à travers les revues, l'impudicité du cœur est un outrage à Dieu, parce que la femme n'est pas un objet. La femme est créature de Dieu et elle a droit à la grâce autant que l'homme. Ni l'homme ni la femme ne peuvent considérer l'autre sexe comme un objet. L'impudicité est une offense à Dieu. Il faut nous débarrasser des souillures intérieures. Aujourd'hui, dans notre prière, étant chacun de notre côté dans notre maison, dans la prière et l'adoration, demandons à Dieu de purifier nos âmes et nos cœurs et nos regards. Demandons à Dieu de laver par le sang de Jésus toutes ces souillures si nombreuses que nous n'oserions même pas exposer aux autres, même aux plus proches. Au verset 32, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Le rejet du conjoint est une offense à Dieu. Mais beaucoup d'hommes et de femmes vivent ensemble dans leur maison sans être allés jusqu'au divorce, et pourtant ils sont dans le rejet. Que faut-il faire de ce rejet qui est dans notre cœur ? Eh bien, ce rejet ne doit plus exister. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut désamorcer cette espèce de colère qu'il y a en nous, de rejet du conjoint, qui se manifeste par des paroles amères, par des regards, par l'absence de paroles bienveillantes, l'absence de reconnaissance, de remerciement, de gratitude, l'absence de caresses peut-être. Le rejet du conjoint est souvent très hypocrite, souvent dissimulé. Il nous faut refuser le rejet du conjoint. Il faut aimer son conjoint comme son propre corps. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25. Comme Christ a aimé l'Église, nous devons aimer notre conjoint. Au verset 34, nous avons les serments, les promesses. Je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied. Faisons attention aux engagements présomptueux, aux promesses qu'on ne pourra pas tenir. J'ai souvent demandé pardon à Dieu pour des choses pareilles. Ça a souvent été, pour moi en tout cas, il y a beaucoup de promesses que j'ai tenues, mais il y en a combien que je n'ai pas tenues. En ayant pris de l'engagement trop vite, sans avoir consulté Dieu. Faisons attention, nous sommes remplis d'hardiesse et de présomption. Faisons attention à nos engagements. Faisons attention à ce que nous promettons. Dieu nous demande beaucoup d'humilité avant d'ouvrir la bouche. Et ce n'est pas facile, je le confesse moi-même devant vous. Au verset 39, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ici, il s'agit de la non-violence. Il s'agit de la bienveillance active. Pourquoi ne pas saluer quelqu'un qui ne nous salue pas? Pourquoi ne pas le remercier pour quelque chose qu'il a fait? Pourquoi ne pas prier pour lui et un jour lui dire? Pourquoi ne pas envoyer une petite carte postale à quelqu'un qu'on n'aime plus, qui nous a fait du mal? Pourquoi ne pas donner un bouquet de fleurs à quelqu'un pour lequel on n'est pas porté à le faire? Verset 44. Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. L'amour des ennemis est une grande source de bénédiction devant Christ. Regardons dans Matthieu 21. Matthieu 21, versets 31 à 32. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jean est venu à vous dans la voie de la justice, donc Jean-Baptiste, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. J'ai eu plusieurs fois l'expérience de voir des chrétiens ne pas s'intéresser à des gens de mauvaise vie. J'en étais désolé, profondément désolé. Je ne pouvais rien faire. J'avais besoin de leur appui, de leur collaboration pour aider ces personnes. Seul, je ne pouvais pas tout faire. Et cette souffrance, je pense que, en priant, j'ai remarqué que Jésus souffre souvent de nos attitudes, où nous manquons d'amour réel. Jésus souffre aujourd'hui, parce que nous n'aimons pas les prostituées et les publicains. Or, pourtant aujourd'hui nous devons le faire. Dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6. Dans Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6, « Gardez-vous de pratiquer votre sainteté devant les hommes pour en être vu, afin d'être glorifié par les hommes, à la fin du verset. » Et donc, Jésus ne demande pas une religion démonstrative qui demande une œuvre de gloire. Il demande l'humilité et la discrétion. Et il demande que nous ne soyons pas impertinents. Ne soyons pas impertinents, que nous ne prions pas devant les autres pour obtenir quelque chose. Verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Nous devons mettre l'impertinence de côté et nous retirer dans notre chambre, nous retirer en secret. Chapitre 6, versets 7 à 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Mais si nous ne prions pas devant les autres, est-ce que nous prions ? Dans notre chambre, dans la solitude. Aujourd'hui, devant cette période où nous devons rester à la maison, n'avons-nous pas une grande grâce de mettre en œuvre cette parole ? Dans le chapitre 6, toujours, au verset 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, etc. Et au verset 18, ne pas se montrer aux hommes, ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais le faire dans le lieu secret. La discrétion est toujours un signe du vrai amour et de la vraie foi. Au chapitre 6, versets 19 à 24, et c'est quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui. Ne vous amassez pas, chapitre 6, versets 19 à 24, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Et si cette crise du corona perpétuée, ou d'autres crises après, et qu'il y avait une chute économique importante, l'argent rouillé, l'argent détruit par les mythes, l'argent volé par les voleurs, oui, peut-être certains banquiers, ou en tout cas des multinationales au-dessus des banquiers, tout cela s'accomplirait. Jésus a dit au verset 21, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Donc, notre vérité affective, notre priorité vécue intérieurement et mise en pratique, ce n'est pas l'amour de l'argent et de la sécurité matérielle. C'est l'amour de la grâce en Jésus-Christ. C'est l'amour du contact avec Jésus. C'est l'amour de l'action de Christ en nous. Et c'est l'amour des bénédictions de Christ en nous. Pas de celles toujours qu'on demande, mais de celles que lui, il veut. C'est une attente effective et active, engagée du royaume de Christ. C'est un processus divin, engagé volontairement en nous, sous le vouloir divin. C'est pour ça que Paul dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4 ou 14, c'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire. Ça, c'est une grande bénédiction pour le chrétien. Le rejet de l'avarice. Aujourd'hui, verset 24. 6, verset 24, Matthieu. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Pourquoi vous inquiétez-vous pour votre vie de ce que vous mangerez? Je vous invite à lire tout le reste du chapitre 6. Et vous verrez que la course dans les magasins, pour tout vider, tant pis si les autres n'ont rien, ça correspond à Mammon. Ça correspond à Mammon, ça ne correspond pas à Jésus qui partage. Ça ne correspond pas à Dieu qui a donné la terre et la nourriture à tout le monde. C'est pour ça que Jésus n'a pas multiplié et changé les pierres en pain. parce que certains auraient rempli leur caddie de pain et d'autres n'en auraient pas eu. Dieu ne peut pas multiplier les pains pour les méchants. Dieu peut bénir ceux qui en font en lui. Et ceux qui volent le pain aux autres seront châtiés. Dans le chapitre 6, verset 8, verset 11, verset 35 à 32, verset 34, et au chapitre 7 aussi, verset 7 à 12, nous avons carrément, clairement, le refus du paganisme économique et matérialiste. C'est le refus du paganisme économique et matérialiste. Lisez ce texte de la fin du chapitre 6 de Matthieu et au chapitre 7 de 1 à 12. Et vous verrez, surtout de 7 à 12, vous verrez que Dieu est capable de nous donner du pain à nous qui sommes méchants. Voilà mes frères et mes sœurs, la vraie bénédiction. Mais revenons à ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres au chapitre 4. Voyons comment les premiers chrétiens ont compris l'Évangile et comment nous devons comprendre aujourd'hui. Actes des Apôtres, chapitre 4, et j'en finirai pour aujourd'hui, parce que on me demande d'arrêter. Actes, chapitre 4, versets 32 à 35.
Là, on a été coupé. Là. Il y en a qui ça ne plaisait pas. Là.
Non.
Puis reprends.
Je reprends, oui. Je peux reprendre.
Oui.
Bon, je vais en terminer de toute façon. Dans le...
Il dit que ça ne va fonctionner, ça ne va plus. Je vais voir, c'est peut-être mon geste.
Attends.
Faut le rebrancher sur les fils, l'électricité.
C'est Viviane, je t'entends.
Oui, ça va?
Voilà.
Donc voilà. On continue. Voilà. On va achever, hein? Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je vous remercie, frères et sœurs, parce que depuis 8 jours, vous avez tous téléphoné, vous avez tous parlé, et je vois que cette façon de vivre que nous avons dans l'Église, où il y a des petites réunions chez l'un chez l'autre, des contacts réguliers, a établi un seul cœur et une seule âme. J'en rends grâce à Dieu, non pas seulement à vous, ni à moi, mais surtout à Dieu. Au Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs et notre âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. C'est une grande richesse pour notre Église. Il n'y a pas de riche au sens du monde. Il n'y a pas de riche au sens du monde. Nous ne pouvons pas dire que quelqu'un dans notre Église a des capitaux en banque. C'est une grande grâce. J'ai remarqué, sans vouloir citer, sans faire allusion à personne, que parfois, des personnes, chrétiens de longue date ou récemment, ont d'énormes capitaux dans leur banque. Et ne le partagent pas avec leurs frères et sœurs en difficulté. Et sont là, assis à côté les uns des autres. Nous n'avons pas, de la part de Dieu, en tout cas ce reproche, nous pouvons dire que nous sommes, il y a peu de gens nobles parmi nous, comme dans l'Épître aux Corinthiens, mais nous avons une grande grâce, nous avons un seul cœur et une seule âme. Cela nous protège de péchés graves, d'avarice et d'égocentrisme. Et je prie Dieu que la malédiction de Balaam
n'existe plus. Ils n'ont plus rien.
Désolée pour tous les petits problèmes techniques. C'est les aléas du direct. Navré.
Donc tu peux conclure.
Oui, je vais conclure. C'est très bien, ma chère fille. Devant la situation d'aujourd'hui, voici ce que Dieu dit à Balaam, au chapitre des Nombres, 22, verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux pour maudire ce peuple. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Je crois, les amis, comme dans Philadelphie, Apocalypse chapitre 3, verset 20, verset 12, cette église est bénie parce qu'elle n'a pas de puissance. Balaam n'a pas d'autorité sur une église qui est en Christ. La malédiction n'a pas d'autorité. Nous devons nous confier à Dieu. La colère de Dieu n'est pas sur ses enfants. Et l'occultisme, la divination n'ont pas d'autorité sur les enfants de Dieu réels. Nous devons faire confiance. Tout ce que Balaam a pu dire à propos d'Israël retombe sur nous. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Il s'agit donc, bien sûr, d'Israël et de tous ses descendants, descendants en Christ. Nous avons une bénédiction, les amis, frères et sœurs, en Christ. Elle vient de longue date. Elle est éternelle. Elle a été promise à Abraham, à Isaac, à Jacob. Même Balaam n'a pas pu maudire. Aujourd'hui, Satan ne peut pas nous maudire. Nous croyons, et soyez consolés de cela, nous croyons à la bénédiction de Christ dans nos vies. Soyons fidèles et obéissants à la parole du Seigneur. Amen.